Le journal présenté par Thomas Larabie.
Bonjour à tous. Les Champs-Élysées ont eu droit à un défilé sous le signe de l'innovation en ce 14 juillet avec en guise de bouquet final un homme volant Franky Zapata propulsé à plusieurs dizaines de mètres de hauteur sur une plateforme de son invention. Son témoignage dans ce journal. Alors qu'un Français caracole en tête du Tour de France, le maillot jaune sur les épaules, la grande boucle pourrait être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est en tout cas ce que demande une cinquantaine de députés français dans une tribune du JDD. Un des signataires nous explique ses motivations. Enfin, nous irons à Hong Kong où la population maintient la pression sur le gouvernement. Des manifestations contre une loi d'extradition vers la Chine ont encore eu lieu hier. Avec une nouvelle doléance, le commerce parallèle de Chinois qui viennent profiter de taxes plus faibles. Un 14 juillet futuriste et axé sur l'innovation, nous y reviendrons dans quelques instants, mais aussi un 14 juillet sous tension et teinté de jaune sur les Champs-Élysées. Alors si le calme est revenu sur l'avenue, 175 personnes ont été interpellées en marge du défilé. Le président de la République a été sifflé pendant sa revue des troupes et trois figures des Gilets jaunes, Éric Drouet, Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez, ont été interpellés et placés en garde à vue avant d'être relâchés. Sur France Info, l'avocat de Maxime Nicole, Juan Branco, n'en démord pas, son client a été arrêté pour des raisons politiques.
Maxime Nicole est tout à fait conscient de la provocation du gouvernement. Ce n'est pas la première fois qu'il en subit. Il sait très bien qu'il est ciblé parce qu'il est l'une des figures les plus visibles des Gilets jaunes et qu'à travers lui, on cherche à humilier le mouvement et lui donner le coup final. Donc il est parfaitement conscient qu'il n'a commis aucun délit. Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il a été arrêté dans une zone qui n'était pas interdite à la manifestation par 15 policiers casqués qui sont arrivés en moto, l'ont encerclé et l'ont envoyé directement en garde à vue en disant « ça y est, on a trouvé le troisième ». C'est quand même assez inquiétant dans une date aussi symbolique, le 14 juillet, où on est censé célébrer l'avènement de la République, de ses valeurs, etc., qu'on ait comme ça en pleine rue des arrestations préventives pour des personnes qui n'ont à aucun moment commis la moindre illégalité. Quelle que soit votre opinion sur Maxime Nicole, sur le mouvement des Gilets jaunes, il faut quand même s'interroger sur notre degré d'acceptation des dérives actuelles du gouvernement.
L'avocat de Jérôme Rodriguez a lui annoncé que son client allait porter plainte. Mais avant cela, ce défilé de fête nationale a eu lieu, on le disait, sous le signe de l'innovation et de la technologie, avec quelques engins venus tout droit d'un futur peut-être pas si lointain, Nathalie Hernandez.
Le ronflement des 5 mini-turboréacteurs du Flyboard Air de Franky Zapata, le clou de l'animation d'ouverture où la réalité rejoint la fiction, avec cet homme volant à une vingtaine de mètres au-dessus du sol. Un commando du futur qui n'a pas manqué de séduire les forces spéciales. Les Géotrouve-tout des armées françaises testent en effet régulièrement en opération tous les engins qui leur permettent d'être plus rapides ou mieux protégés. À l'image de ce fusil anti-drone ou de ce drone de reconnaissance minuscule et léger comme une plume. Après les sourires admiratifs, place à l'émotion avec un hommage aux blessés de toutes les générations. Paralysée du bras gauche il y a 7 ans, Sabrina était là en survêtement équipe de France. Elle fait désormais partie des athlètes de haut niveau des armées.
On va dire que c'est juste une deuxième porte qui s'ouvre à nous, qui peut être différente, mais on a beaucoup de possibilités maintenant qui s'offrent à nous. Donc c'est pas parce qu'on est blessé ou handicapé que la vie se termine. Bien au contraire, c'est une nouvelle vie qui commence.
Médaillée d'or à 5 reprises en athlétisme, Sabrina s'envolera pour les Jeux mondiaux en Chine en octobre prochain.
Un reportage de Nathalie Hernandez. Et ce qui a le plus époustouflé sur les Champs-Élysées, c'est donc cet homme volant, Franky Zapata, transporté à plusieurs mètres de hauteur par son flyboard, une plateforme qu'il a lui-même inventée et propulsée par des mini-turboréacteurs. Autant dire que ce champion du monde de jet-ski semblait revenu tout droit du futur, mais son invention pourrait rapidement se retrouver dans les rangs de l'armée, selon lui. Écoutez.
L'armée est intéressée par un modèle spécifique qu'on a développé justement pour les forces spéciales, qui est une espèce d'hybride entre un flyboard air et un Segway. Puis d'autres produits qu'on développe aussi, qui sont à la fois à potentiel civil et militaire, qui sont les plateformes de volantes pour le secours, nos voitures volantes, etc. Tous les produits qu'on est en train de développer sont potentiellement intéressants pour l'armée, mais encore et plus spécifiquement pour les forces spéciales, comme par exemple aborder des bateaux qui seraient piratés ou attaqués. Donc aujourd'hui, ils montent avec des échelles ou des ventouses. demain, ils auraient la capacité de voler jusque sur le pont du bateau.
Francky Zapata, inventeur et star de ce 14 juillet. En ce jour de fête nationale, le monde du cyclisme est en fête puisque c'est un Français qui caracole en tête du Tour, maillot jaune sur les épaules. Et certains députés, dans le même temps, voient très grand pour la grande boucle. Ils veulent la voir inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une cinquantaine d'élus ont signé une tribune en ce sens dans le JDD. Leur argument, le Tour de France est le troisième événement sportif le plus regardé au monde, derrière les JO et la Coupe du Monde de foot. Il est aussi et surtout le seul spectacle de cette nature à être gratuit. Le député LREM du Tarn, Philippe Folliot, est signataire de cette tribune.
Chacune et chacun d'entre nous a une histoire qui le relie au Tour de France. Et donc c'est pour cela que le Tour de France a un lien tout à fait spécifique et particulier avec nos concitoyens. Mais au-delà de cela, le Tour de France est vraiment un événement à portée et à caractère mondial. C'est aussi et surtout une extraordinaire vitrine, une extraordinaire image de notre pays. Cet événement a aussi le caractère d'être un événement éminemment populaire, avec des millions et des millions de spectateurs tous les ans, et gratuit. Le fait d'allier l'aspect sportif avec l'aspect culturel ou touristique, patrimonial, est quelque chose quand même qui caractérise le Tour de France. Et en ce sens, c'est un événement qui dépasse la seule sphère sportive pour aller dans celle de notre patrimoine commun.
Philippe Folliot au micro de Théo Conscience. Au Royaume-Uni, le journal Mail on Sunday a divulgué ce matin une deuxième série de rapports confidentiels de l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, Sir Kim Darroch. Dimanche dernier, les câbles publiés révélaient que Kim Darroch jugeait le président américain inepte, incompétent et instable. Le haut fonctionnaire avait démissionné mercredi après la réaction de Donald Trump, qui le qualifiait de type stupide, imbécile, prétentieux, avec lequel il ne voulait plus avoir aucun contact. Aujourd'hui, les nouvelles fuites soulignent que la décision des États-Unis de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien était motivé par des raisons personnelles et non géopolitiques. Une correspondance d'Otsoufi.
Le premier télégramme parle de vandalisme politique. Selon l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien parce qu'il avait été conclu par son prédécesseur Barack Obama en 2015. Sir Kim Darroch explique que c'est une décision motivée par des raisons idéologiques et de personnalité. Le message avait été envoyé par le diplomate à sa hiérarchie en mai 2018, après la visite de Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, pour tenter de convaincre le président américain de changer d'avis. Dans un autre câble envoyé ensuite, le haut fonctionnaire critique l'absence de stratégie à long terme de la Maison-Blanche et souligne des désaccords dans l'équipe de Donald Trump. C'était déjà la teneur des mémos confidentiels publiés dimanche dernier par la presse, dans lesquels il parlait d'une administration dysfonctionnelle, imprévisible et divisée. Le Sunday Times affirme aujourd'hui que l'auteur des fuites aurait été identifié par la police après examen de relevés téléphoniques et d'e-mails, mais pour le moment, l'unité antiterroriste de Scotland Yard en charge de l'enquête n'a annoncé aucune interpellation.
Les précisions à Londres d'Aude Soufi. Et dans cet épineux dossier du nucléaire iranien, Paris, Londres et Berlin appellent à l'apaisement. Dans un communiqué commun, ils exhortent l'Iran à arrêter l'escalade des tensions et à revenir sur ses décisions récentes. Le 8 juillet, Téhéran a annoncé produire désormais de l'uranium enrichi à plus 4,5%, un niveau prohibé par l'accord international de 2015 visant à limiter son activité nucléaire. Un accord dénoncé unilatéralement par les États-Unis de Donald Trump l'an dernier. Les Hongkongais veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Après des manifestations monstres le mois dernier, le mouvement de protestation contre une loi d'extradition vers la Chine s'inscrit dans la durée avec des manifestations régulières et dans tous les quartiers de la ville. Après une marche hier près de la frontière avec la Chine pour dénoncer cette fois le commerce parallèle de Chinois qui viennent profiter des taxes plus faibles, le cortège d'aujourd'hui passait à travers un vaste quartier résidentiel et devant quelques bâtiments officiels, Simon Leplâtre.
Ils sont à nouveau des dizaines de milliers à avoir battu le pavé ce dimanche à Hong Kong. Les promesses de Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, n'ont pas suffi à apaiser les habitants. En début de semaine dernière, elle a déclaré que la loi d'extradition était morte de vieillesse, mais elle a refusé de s'engager à un retrait du projet de loi, laissant planer le doute sur ses intentions.
Elle refuse d'utiliser le terme « retirer ». Un mot qui a des conséquences légales. Alors que l'expression qu'elle utilise, morte de vieillesse, c'est juste une expression chinoise, elle joue sur les mots.
Derrière cette loi, plus généralement, c'est l'influence de la Chine qui inquiète, car les Hongkongais sont informés, ils savent bien qu'ils ont encore beaucoup plus de liberté que les Chinois. Écoutez ce jeune commercial, 30 ans, présent à la manifestation.
Comme vous le savez, il se passe des choses terribles en Chine, très inhumaines. On le voit avec les événements au Xinjiang et au Tibet actuellement. C'est de ça qu'on a peur, perdre nos libertés.
Pour l'instant, la Chine appelle le gouvernement de Hong Kong à la fermeté, ce qui ne devrait pas aider à trouver des concessions. En tout cas, les manifestants, eux, sont déterminés à revenir tous les week-ends s'il le faut.
Un reportage de Simon Leplâtre. Coder pour s'intégrer en Suisse. Une association a trouvé un moyen pour aider les réfugiés à trouver un emploi. Elle les forme au métier de programmeur informatique. Les entreprises suisses peinent à en trouver alors qu'il faudrait en recruter plus de 40 000 dans le pays d'ici à 2026. Ça tombe bien, comme ailleurs en Europe, les réfugiés de Suisse luttent souvent pour trouver un emploi stable. À Lausanne, Jérémy Lanche.
Quand on parle de codage informatique, on imagine souvent ça. Rien à voir avec les cours de Power Coders. Ici, l'ambiance est studieuse, mais très détendue.
Eux, ils sont là. Au niveau de la motivation, il n'y a pas mieux.
Sorin Paoun est professeur d'informatique. Il a 3 mois pour former une 20aine d'étudiants réfugiés aux rudiments de la programmation. Des étudiants comme les autres, un détail près.
Moi, comme prof, j'ai quelque chose comme 18 ans dans l'enseignement. J'ai jamais été aussi respecté en classe que... Donc, on me tire la chaise presque, on m'amène du café. Non, c'est un peu... Ils sont vraiment incroyables.
Pour être admis, un minimum de bagage est nécessaire, mais pas besoin d'être un crack en informatique. Il y a quelques mois encore, Mohsen ne savait pas ce qu'était le codage.
C'est vraiment très chaud pour moi. Il y a 4 ans que je suis en Suisse et je n'ai rien à faire. Mais maintenant, avec le Power Coders, je vois un futur pour moi.
Même chose pour Caroline, la seule fille du groupe.
Je n'aurais jamais imaginé faire un jour du codage, mais j'ai découvert l'association et j'ai aussi découvert un autre aspect de moi-même.
Au bout de 3 mois, c'est le moment du stage. Le véritable défi vient après, au moment de trouver un job. Magali Matisse s'occupe des relations entre l'association et les entreprises.
C'est des personnes qui ont déjà un certain bagage, qui ont envie d'apprendre, qui vont être d'excellents éléments en entreprise d'une manière générale. Ça se ressent pendant les entretiens, les entreprises le ressentent également.
Et ça marche, près de la moitié des anciens étudiants ont déjà trouvé un emploi stable.
Tout de suite, notre détour quotidien par le Festival d'Avignon. Aujourd'hui, Arnaud Laporte s'intéresse au travail d'Olivier Py, qui n'est autre que le directeur du Festival d'Avignon depuis 2013. Cette année, il a choisi de se mettre à nouveau à hauteur d'enfant avec son opérette Amour vainqueur. Et il confirme tout son savoir-faire dans le théâtre jeune public, Arnaud Laporte.
C'est la 4e fois qu'Olivier Py signe un spectacle inspiré des frères Grimm. Spectacle ici conseillé pour un public à partir de 9 ans. On pourrait certes s'interroger pourquoi 9 ans et pas 8 ou 10. Je préfère dire que c'est un spectacle tout public dans la mesure où il s'agit là d'un spectacle de qualité. Le directeur du Festival d'Avignon signe texte, mise en scène et musique de cette fable qui voit une jeune fille amoureuse enfermée dans une tour par son père qui est hostile à cette idylle. À sa sortie, la jeune femme découvre le triste état du monde miné par les conflits en tout genre et la misère qui gagne chaque jour du terrain. La nature est dévastée et le prince, lui-même, est non seulement défiguré, mais n'est pas non plus très vaillant. À force de volonté, d'amour et de travestissement, l'amour donc, comme l'annonce le titre, remportera heureusement la mère de toutes les batailles. Comme il sait bien le faire, Py convoque une esthétique venue de la longue tradition du théâtre de tréteaux, avec des praticables, des toiles peintes ou des photos en fond de scène, qui amène aussi une esthétique expressionniste qui colle très bien à l'histoire racontée. La dimension musicale est d'importance et les 4 interprètes de ce spectacle sont toutes et tous d'aussi bons comédiens que musiciens. Leur investissement communique au public une belle intensité, un vrai moment de plaisir. Et dans cette 73e édition du Festival d'Avignon, ce n'est pas la moindre qualité de ce spectacle que de parler vraiment du monde, de jouer avec les genres et d'amener le public à se poser des questions. Finalement, comme nous l'évoquions avant-hier avec Blanche-Neige et le Prince, la vitalité du théâtre se loge peut-être aujourd'hui dans le secteur jeune public.
C'était Arnaud Laporte depuis le Festival d'Avignon. Clap de fin aujourd'hui pour les fêtes de la Saint-Fermain à Pamplune et leur fameux lâcher de taureau. Au total, 8 personnes ont été encornées, dont un touriste américain en plein selfie avec son téléphone portable. Au total, plus de 500 personnes ont été légèrement blessées en une semaine de course. Un rapide coup d'œil sur le ciel qui sera dégagé toute la soirée sur la majeure partie de la France, à l'exception du Grand Est qui connaîtra quelques averses. Demain matin, grand soleil pour bien commencer la semaine et une fois n'est pas coutume, la Corse et la Côte d'Azur sont sont les seuls à recevoir quelques gouttes. Côté température, comptez 17 pour la minimale à Rouen, 23 à Paris, 26 à La Rochelle, 24 à Biarritz et Clermont, 23 à Grenoble et 28 à Aix-en-Provence. C'est la fin de ce journal. Il vous a été préparé par Caroline Beneteau. À la technique, Jean-Frédérix.